Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité de ce midi, bientôt une thérapeutique de choc pour lutter contre les inondations à Kinshasa. Ces mesures vont aller jusqu'à la démolition de toutes les infrastructures érigées dans les zones non constructibles. Résultat de la séance de travail entre Félix Tshisekedi et la cellule de crise sur les inondations. Éclairage avec Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement dans un instant. L'ambassadeur de Belgique en RDC s'insurge contre l'occupation armée, l'exploitation illégale de ressources et la souffrance des populations au nord et sud Kivu. Roxane de Bilderling s'est exprimée à Beni, où elle a été reçue par le gouverneur du nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo. Plusieurs ponts et passerelles endommagés à travers la ville de Bounia. Encore une fois, une conséquence des inondations causées par la montée des eaux de deux rivières. Situation qui affecte les interventions de forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité. Nous en parlons avec le coordinateur principal de la protection civile urbaine qui est notre invité. Je le disais tantôt, le président de la République a dirigé hier mardi une séance de travail avec la cellule de crise sur les inondations à Kinshasa et tant dans d'autres provinces de la RDC. C'était à la Cité de l'Union africaine. Objectif, évaluer l'ampleur de la situation et de prendre des mesures urgentes. Selon la présidence de la République, dans quelques jours, cette cellule de crise va annoncer formellement des mesures prises, notamment la démolition de toutes les infrastructures érigées dans les zones non constructibles. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, donne également le bilan actuel des pluies du 4 au 5 avril dernier à Kinshasa dans cet extrait que nous propose Grace Amzati.
Il était donc question au cours de cette séance de travail de faire le point de la situation aujourd'hui au président de la République, principalement la situation des sinistrés. Un bilan a été fait, malheureusement 75 compatriotes sont décédés et plus de 11 000 sont sinistrés aujourd'hui qui sont hébergés sur 4 sites. De ce point de vue, le président de la République a donc encouragé les gouvernements. La cellule a été réunie hier par la première ministre pour passer en revue toutes ces questions et évidemment établir les états des besoins nécessaires pour y répondre. Le président de la République a encouragé le gouvernement a continué à apporter cet appui à nos populations qui ont été touchées. Le deuxième volet du sujet a été le volet maintenant de comment le gouvernement réagit et s'attaque aux causes qui ont conduit à ces inondations. Vous savez qu'on ne peut pas blâmer les catastrophes naturelles ou la pluie, mais il y a une grosse part de l'humain dans ce qui s'est passé.
Encore un drame sur le fleuve Congo et la série noire continue. Une baleinière a pris feu hier mardi sur ce fleuve en Mbandaka au niveau du lieu appelé Nganda Kinshasa. Le bilan est très lourd car on parle de plusieurs morts et de disparus selon des sources locales. Les chiffres et l'origine de l'incendie ne sont pas encore déterminés. Vous avez compris, l'embarcation dénommée HB Kokolo quittait le port Bolenge à destination du village Ngbodo. L'information est confirmée à Radio Kapi par le sénateur Jean-Paul Boketsu Bofili, élu de l'Équateur, qui ne précise pas non plus le bilan. Junior Bompongo, un acteur politique local, déplore cette énième tragédie survenue dans cette région et en appelle à la responsabilité des autorités. Il est joint depuis Mbandaka par Grace Amzati.
Ce drame survient à peine quelques jours après un autre naufrage. Des drames, une même région et toujours les mêmes questions. Pourquoi cela continue-t-il à se produire et surtout jusqu'à quand? Nous parlons ici des vies humaines, des familles entières décimées, des corps engloutis par les eaux pendant que les autorités, elles, enchaînent les silences ou les promesses non tenues. Ce n'est plus une série d'accidents, c'est un système d'irresponsabilité généralisée. Des embarcations surchargées, sans gilet de sauvetage, sans contrôle, sans secours adaptés. Et pourtant, ces embarcations continuent de circuler en toute impunité aux vies et aussi de tous. L'exécutif provincial, les services de transport fluvial, les autorités nationales, tous sont interpellés. À ce stade, ce n'est plus de la négligence, c'est une complicité par abandon. On ne peut plus se contenter des messages de condoléances. Ce qu'il faut, c'est une réponse forte, immédiate, structurée. Un plan d'urgence pour sécuriser les transports fluviaux s'impose. Le fleuve ne doit pas être à ce jour un cimetière. Il doit redevenir un trait d'union entre les Congolais.
Jusque-là, tous nos efforts pour avoir le son de cloche des autorités locales, dont le gouverneur de l'Équateur, à ce sujet, sont restés vains. Économie, la RDC réitère sa demande adressée au secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELECAF, de pouvoir établir à Kinshasa le siège du système de paiement et règlement panafricain. C'est l'une des recommandations formulées par le ministre congolais du commerce extérieur à l'issue de la 16e réunion du conseil des ministres de la ZELECAF tenue ce mardi à Kinshasa. Au cours d'une conférence de presse organisée dans la soirée à cet effet, Julien Paluku affirme que la RDC fournit d'énormes efforts pour relever les défis liés notamment aux infrastructures et explique des voies qui ouvrent le pays au marché international. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Il y a le corridor, par exemple, qui va du Sud-Ubangi en passant par Zongo jusqu'en République centrafricaine et qui ouvre les marchés sur l'Afrique occidentale. Il y a le corridor qui partirait de Kisangani, vous allez jusqu'à Kasese en Ouganda et vous débouchez sur Mombasa, nous sommes à l'océan Atlantique. Il y a le port en eau profonde de Banana, dont le lancement a été fait par le président de la République. Il y a le corridor de Lobito et il y a au-delà de cela des corridors internes. Maintenant, pour que nous puissions nous rassurer du niveau du commerce que nous allons mener, nous, la RDC, nous avons déjà déposé au niveau du secrétariat général la liste de tous les produits qui doivent faire l'objet du commerce intra-africain. Nous avons déjà listé 6439 produits. Et dans ces 6439 produits, l'accord de ZELECAF dit que chaque pays doit choisir 3% de sa liste pour que ces 3%-là ne fassent pas l'objet de démantèlement tarifaire. Et nous les avons déjà choisis. Mais en dehors de ces 3% qui se chiffrent à 209 produits congolais, tout le reste va faire l'objet, effectivement, du commerce interafricain.
Restons dans cette ambiance économique avec la journée porte ouverte organisée hier mardi dans la zone économique spéciale de Maluku. Cette activité a été organisée en marge de la célébration des 10 ans d'existence de cette institution clé pour faciliter l'industrialisation de la RDC. Sur 10 entreprises qui doivent s'installer dans la zone, 2 sont déjà opérationnelles et fabriquent respectivement les carreaux et les boissons sucrées. Des détails avec Askin Zibiatayuro qui a visité cette zone économique.
La visite guidée dans la zone a permis au public de palper des doigts la réalité de la production de la société Saphir Céramique. Cette entreprise produit 50 000 mètres carrés de carreaux par jour. L'autre société, c'est Varum Beverage, qui produit plus d'un million de bouteilles de Pepsi par jour. Un succès qu'affirme le directeur général de l'agence de zone économique spéciale, qui a joué un rôle important d'attraction d'investissement. Ogi Bolandamenga.
Aujourd'hui, cette étape, c'était pour faire voir de manière pratique que les zones économiques spéciales, ce n'est pas seulement de la théorie. Ici, nous avons déjà signé avec 13 entreprises qui ont déjà commencé la production. Il y en a d'autres aussi qui vont venir au courant des mois à venir.
Sur place, l'usine de Pepsi compte près de 600 travailleurs, dont une bonne partie sont des jeunes venus de la commune de Maluku. Monanganga na Trésor, un des chefs coutumiers de Maluku, reconnaît l'impact de la zone économique spéciale.
En bref, nos enfants étaient des chômeurs. Maintenant, ils ont du travail. Ils ne pourront plus venir nous déranger à la maison. Nous sommes rassurés qu'ils vont commencer à recevoir des salaires.
La zone économique spéciale de Maluku est butée au problème d'espace. L'agence devra identifier d'autres nouveaux sites pour absorber une forte demande des entreprises qui veulent investir en RDC.
Et puis, la pluie qui s'est abattue ce mercredi matin sur la ville de Kinshasa n'a pas perturbé la poursuite des travaux du dialogue national sur la gouvernance minière dans un contexte de conflit en RDC. À l'initiative du comité de crise pour la paix et la sécurité, ce forum se propose de développer un narratif commun, un plan d'action et des mesures d'accompagnement de la société civile pour un plaidoyer efficace au niveau national, régional et international. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Les participants à ces travaux, au moins 120, dressent un état des lieux de la gouvernance minière dans l'est du pays. De nombreux panélistes défilent à la tribune de ces dialogues pour scruter la situation minière dans la partie est de la RDC. Les premiers intervenants planchent sur les impacts des conflits liés à l'exploitation minière sur les droits des femmes, des enfants et des communautés locales. Les panels spéciaux sur les cobalts développent la thématique sur l'évaluation des initiatives sur les minéraux stratégiques ainsi que les impacts suite de mesures prises sur les cobalt en RDC. La société civile du Sud Kivu s'intéresse à la documentation des cas de pillage des ressources minières dans cette partie du pays. Cette deuxième journée se clôture sur le plaidoyer en faveur de la résolution du conflit dans l'est de la RDC, approche de la diplomatie citoyenne. Les participants à ces assises proviennent notamment de la présidence de la République, de la primature, du Parlement, du gouvernement central, des gouvernements provinciaux ainsi que de la société civile.
L'ambassadeur de Belgique en RDC s'insurge contre l'occupation armée, l'exploitation illégale des ressources et la souffrance des populations nord et sud Kivu. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie ses troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources et faire souffrir sa population, a déclaré Roxane de Bilding hier mardi dans la ville de Beni, où elle a été reçue par le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo. Les échanges entre les deux personnalités ont porté notamment sur la guerre d'occupation menée par le M23 AFC, soutenue par le Rwanda, et les priorités humanitaires, sécuritaires et infrastructurelles dans cette zone en crise. Roxane de Bilderling dans cet extrait choisi par Martial Papi Mukeba.
On sait que c'est une province qui est occupée en partie, qui est encore face à de nombreux défis. Et le gouverneur m'a expliqué sa vision en trois piliers. Il y a un pilier évidemment humanitaire. Et donc le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier des infrastructures. On a vu qu'il y a beaucoup de travaux qui ont déjà commencé pour élargir la piste de l'aéroport. Ça permettra évidemment de reconnecter toute cette région avec le reste du pays, mais aussi avec la sous-région et d'apporter l'aide nécessaire. Et alors le troisième axe, c'est évidemment la sécurité. Et la Belgique a depuis le début de ce conflit adopté des positions très claires de condamnation de la guerre d'occupation, de demande de respect de l'intégrité territoriale de la RDC. La Belgique a été en pointe pour condamner, pour faire adopter aussi des sanctions. Et vous savez qu'aujourd'hui, on en subit aussi des répercussions sur le plan politique. Mais on l'assume parce que c'est une position qu'on prend pas pour faire plaisir à quelqu'un. Soyons bien clairs, nos positions, nous les prenons parce que nous estimons que ce sont des positions de principe. On ne peut pas accepter qu'un pays envoie des troupes dans un autre pays pour l'occuper, pour prendre ses ressources, pour faire souffrir sa population.
Du côté de l'Ituri, l'Assemblée provinciale, elle, s'oppose à la présentation d'un projet de loi portant sur l'habilitation de l'état de siège en vue de sa prolongation pour une période de 12 mois. Projet de loi initié le 11 avril dernier par le gouvernement. Dans sa déclaration faite mardi à Bounia, cet organe délibérant en veilleuse estime que cette démarche est contraire à la réalité du terrain où, selon cette institution, l'état de siège a échoué à imposer la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Les députés provinciaux exigent par ailleurs le paiement de leurs émoluments et menacent d'organiser des actions démocratiques pour faire entendre leur voix. Martial Kisabiamungu.
Réunis ce mardi à Bounia, tout en rejetant les projets de loi d'habilitation du gouvernement pour la prolongation de l'état de siège pour une période d'une année, ces élites de l'Ituri exigent la levée de ces régimes spéciaux et la reprise immédiate des activités parlementaires dans la province. Dans leur déclaration, ils demandent également à Kinshasa de payer leurs émoluments. Dans les cas contraires, ils menacent d'organiser des actions de grande envergure dans les 5 territoires de l'Ituri. Des sources au gouvernorat des provinces affirment cependant que les autorités provinciales ont procédé ce mardi au paiement des émoluments des députés provinciaux et les frais de fonctionnement pour le mois de janvier à un montant total d'un peu plus d'1,154 milliard de francs congolais. Ce que confirme le président de l'Assemblée provinciale qui ajoute qu'il s'agit là des émoluments payés par le gouvernement congolais. Sami Diakonga précise que son institution continue à réclamer l'autre quotité émanant du gouvernement provincial sur base de ce que la province mobilise. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
La ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a publié depuis lundi dernier le calendrier des épreuves certificatives 2025. Selon ce calendrier, la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État se tiendra du lundi 28 au jeudi 31 juillet prochain. Durant les deux premières semaines du mois de juin, a-t-on appris, les différentes épreuves hors session de l'examen d'État seront organisées. En ce qui concerne l'examen national de fin d'études primaires, ENAFEP, il va débuter mardi 1er juillet pour prendre fin le 2 juillet de cette même année, alors que le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP aura lieu du jeudi 17 au vendredi 18 juillet 2025. C'est bien noté. Et pour cet avertissement aux agents véreux de la police de circulation routière, spécialement les auteurs des tracasseries, des équipes d'inspection, d'inspecteurs de l'IG sont depuis lundi sur terrain pour 15 jours afin de traquer tous les agents de la PCR qui s'adonnent à des comportements violant les droits des usagers de la route. Des jeeps avec mention IG PNC sont déployés à cet effet dans les communes de la Gombe, Lingwala, Mongafula, Limete et Njili. Reportage Billy Ivan Lutumba.
Ce mardi 14 avril, les inspecteurs de l'IGPNC ont sillonné plusieurs carrefours de la ville de Kinshasa pour contrôler et évaluer les comportements des agents de la PCR. Sur avenue de la Gombe, après avoir fait libérer un conducteur interpellé sans raison valable, un passant témoigne.
Tout ce qu'il raconte, c'est du mensonge. À cet endroit, il y a une fracasserie sans précédent. Si vous venez régulièrement, vous le prendrez en infraction. C'est pire à cet endroit. Je me réjouis de l'initiative. Si vous le faites régulièrement, cela va beaucoup aider et préserver l'honneur de la police.
Ailleurs, au niveau du saut de mouton à Sanef sur avenue des Libérations, ce 24 novembre, un membre de la Chaco encourage l'inspecteur général Patience Mouchid pour cette initiative.
Nous demandons à l'inspecteur général que la présence des inspecteurs de l'inspection générale soit sur terrain pour éviter un peu de dérapage de nos policiers. Et j'arrive à sensibiliser tous les chauffeurs de respecter le code de la route, de ne pas désobéir aux agents qualifiés. La présence de l'inspection sur terrain, ça va éviter beaucoup de dégâts et il y aura moins de bavures policières.
Dans cette même mission, une autre équipe est tombée sur un groupe des policiers de l'unité de surveillance à bord d'une voiture quête de la PNC qui a tamponné mortellement une vendeuse aux abords du boulevard du 30 juin. Les usagers de la route sont donc encouragés à saisir l'IGPNC sur avenue Justice numéro 40 ou à l'antenne de l'IG ville de Kinshasa au camp Kabila des tout cas violant leurs droits légaux.
Actualité internationale.
Deux ans après le début de la guerre entre l'armée soudanaise et la milice paramilitaire des forces de soutien rapide, le Soudan et ses 48 millions d'habitants sont plongés dans une crise humanitaire sans précédent. Alors que des dizaines de milliers de personnes sont mortes, près de 13 millions ont été déplacés et 25 millions se trouvent au bord de la famine selon l'ONU.
L'invité.
Plusieurs ponts et passerelles sont endommagés à travers la ville de Bounia. C'est la conséquence des inondations que la ville a connues avec la montée des eaux des rivières Nyamukau et Ngezi. Une situation qui affecte aussi des interventions des forces de l'ordre dans une ville où on note une forte montée de la criminalité urbaine. Radio Kapi reçoit Robert Ndjalonga, le coordinateur provincial de la protection civile. Il répond aux questions de Jean-Claude Lukidile.
Robin Jalonga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le coordinateur de la protection civile en Ituri. La situation dans la ville de Bounia, vous l'avez noté, c'est un peu la hausse de criminalité avec des tueries et des banditismes armés. Quel constat faites-vous par rapport à ça?
Oui, effectivement, au courant de cette semaine 17 au 13 avril 2025, le service de la protection civile a été informé par les sources communautaires sur les cas de criminalité et de banditisme urbain au niveau des centres-villes, mais aussi des cas de vol isolés dans certains quartiers de la ville de Bounia. Et ce sont des éléments qui, depuis un certain temps, sembleraient avoir d'appel dans la ville de Bounia. Et les constats ou les évaluations, selon aussi les feedbacks communautaires, c'est que ce plus pendant la période de festivités que de tels cas de la hausse de criminalité ou de vol sont enregistrés dans la ville. Mais aussi, la deuxième hypothèse serait le fait que, suite à la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État, qui aurait fait que bon nombre de bandits qui étaient au niveau de la prison et qui seraient libérés, et ces derniers reviendraient encore dans la même pratique de vol dans les différents quartiers de la ville de Bounia.
Un autre fait aussi, vous l'avez retenu dans votre rapport hebdomadaire, c'est le délablement de plusieurs ponts et passerelles à travers la ville de Bounia. Et cela a beaucoup de conséquences, notamment sur, par exemple, le trafic interquartier ou intraquartier, mais aussi en ce qui concerne les interventions des forces de l'ordre, notamment lors des patrouilles nocturnes.
Oui, effectivement, c'est un constat vrai. Et c'est depuis l'année passée et les délabrements ou la destruction de ces ponts ou de passerelles s'est réduit surtout avec les inondations des rivières ou des ruisseaux dans la ville de Bounia, avec l'inondation, ces ponts ou ces passerelles ont été soit complètement détruits ou partiellement, rendant difficile la communication entre les quartiers, donc être communaux ou intercommunaux, et aussi ayant des pactes sur les interventions rapides des services de sécurité au cas où il y a des alertes, par exemple des cas de cambriolage, et cela impacte sur les réponses à apporter à ces cas d'alerte, parce que ces services doivent prendre de longs trajets pour arriver, et des fois ils arrivent lorsque les auteurs se sont déjà enfuis, et toujours difficile de gérer les situations. D'où les souhaits et la recommandation ou la proposition des services de la protection civile dans le cadre de la réduction ou gestion des risques dits aux phénomènes ou catastrophes ou aléas naturels serait de voir comment les autorités et ou le partenaire pouvaient mobiliser des capacités ou des moyens afin de reconstruire ces infrastructures, les ponts et le passerelle, pour encore permettre la reprise normale de la circulation entre les quartiers ou les communes, et surtout pour renforcer et réduire l'état d'intervention pour les services de sécurité en cas d'alerte.
Robert Ndjeronga, je vous dis merci.
C'est à nous de vous remercier.
Voilà, c'en est fini pour cette grande édition de midi. Merci à vous qui nous avez suivis à Idiofa, Matadi, Gemena, Bounia, Goma, Bukavu et partout dans le monde. Merci également à Martin Sebujangwe, Blaise Chindani et Mimi Kindou. Bon après-midi à toutes et à tous.